France Inter. Mathilde Munoz. 5-7.
Il est 6h21, c'est un procès à la portée politique considérable, procès de Jair Bolsonaro, l'ancien président brésilien d'extrême droite. La phase finale débute aujourd'hui, les juges de la Cour suprême doivent décider de le condamner ou de l'acquitter. Bonjour Mochirio.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste du Brésil contemporain, maîtresse de conférences à l'université Gustave Eiffel en Seine-et-Marne. Jair Bolsonaro est poursuivi pour avoir tenté un coup d'État afin de rester au pouvoir après sa défaite à la dernière présidentielle en 2022. On se souvient des images, ça avait été violent, avec des lieux de pouvoir attaqués, saccagés par ses soutiens. Ce procès, Mochirio, c'est un moment charnière pour le pays.
Oui, tout à fait. D'abord, il faut signaler que le procès ne porte pas spécifiquement sur le grand mouvement militant qui avait occupé la rue, qui avait installé des campements devant les casernes, puis avait pris d'assaut la place des trois pouvoirs, c'est-à-dire la principale place des différents pouvoirs brésiliens, mais porte sur une conspiration qui n'a été découverte qu'à la fin de l'année 2024, suite à des fuites de documents et d'enregistrements, qui impliquent non seulement Jair Bolsonaro, mais l'ensemble des hauts gradés militaires, des renseignements d'anciens ministres de la Justice de la Défense et qui avaient organisé l'assassinat du président élu Lula, de son vice-président, de l'un des juges de la Cour suprême. Donc il ne s'agit pas simplement d'un procès qui concerne la mobilisation populaire, mais une véritable conspiration visant à demeurer au pouvoir. Excuse-moi.
Allez-y, je vous en prie.
Non, mais effectivement, c'est un moment charnière parce que c'est un moment complètement inédit dans l'histoire du Brésil. Jamais aucun, non seulement chef d'État, mais haut gradé militaire n'avait été l'objet d'accusations si graves et d'un procès tout au long de l'histoire brésilienne, tout au long de l'histoire de la République brésilienne. Il y a eu de très nombreux coups d'État et systématiquement, leurs responsables avaient été amnistiés ou n'avaient jamais été poursuivis.
Comment ce procès est vécu au Brésil ? C'est sujet de conversation de numéro un partout ?
Oui, c'est un sujet extrêmement polarisant. Bien entendu, c'est évidemment quelque chose qui implique de manière très différente la population qui appuie le gouvernement en place ou en tout cas qui a très mal vécu le gouvernement Bolsonaro et qui considère que c'est un processus démocratique qui n'est que justice et que finalement cela représente une maturité de la démocratie brésilienne. Mais évidemment, ce n'est pas un point qui fait consensus. Et toute la partie de la population qui demeure soit attachée à Bolsonaro, soit très hostile au gouvernement en place, considère que c'est un procès politique. Donc c'est un objet de forte polarisation.
Mais au sein de la droite brésilienne, j'ai vu quand même qu'il y avait des divisions. Il y a une droite plus modérée qui dit « bon, faut passer à autre chose, il y a d'autres élections qui arrivent l'an prochain, il faut les préparer, sans Bolsonaro, on ne va pas attendre ».
Oui, tout à fait. Bolsonaro est encombrant et il est également encombrant parce que la manière dont se déroule le procès et les fortes pressions qui s'exercent sur la justice brésilienne, en particulier les pressions américaines, suscitent un mécontentement de l'opinion qui va au-delà des lignes de fracture traditionnelles. Les interventions de Trump qu'on a beaucoup médiatisées à l'étranger parce qu'elles sont extrêmement graves et extrêmement importantes.
Oui, il a dénoncé une chasse aux sorcières contre Bolsonaro, etc.
Oui.
Il a imposé une surtaxe douanière de 50% sur de nombreux produits brésiliens. Ça a du poids, ça a changé la dimension du procès ?
Ça a changé la dimension du procès parce que ça a réveillé un anti-américanisme, un anti-impérialisme qui est beaucoup plus large que les secteurs progressistes dans la population brésilienne. Quel que soit le rapport à la politique nationale, l'idée qu'une puissance étrangère détermine comment doivent fonctionner les institutions est quelque chose qui n'est pas considéré comme acceptable et qui finalement va dans le sens de la tenue du procès et d'une certaine fermeté des juges de la Cour suprême à l'égard de Bolsonaro et de ses 7 co-accusés, puisqu'il n'est pas le seul devant les juges. Il y a des hauts gradés militaires, un ancien ministre de la Justice, un ancien ministre de la Défense, un ancien responsable des renseignements intérieurs. Bolsonaro, déjà condamné à l'inéligibilité pour d'autres faits, des faits liés à sa gestion absolument catastrophique et criminelle de la pandémie, calomnies, des faits de manipulation des réseaux sociaux également délictueux, commencent à être très encombrants à droite et même à l'extrême droite, ce qui fait que dans son camp, il n'est pas universellement soutenu.
Et il peut espérer s'en sortir, hein. Là on voit que son fils n'arrête pas de dire qu'il ne va pas bien, que c'est scandaleux, hein, qu'il soit assigné à résidence et sous surveillance 24 heures sur 24. D'ailleurs, Jair Bolsonaro n'assistera pas à son procès. Il a 70 ans aujourd'hui. Il peut espérer échapper à la prison ?
Alors, il peut espérer échapper à la prison, probablement pas, au sens, en tout cas la prison domiciliaire, probablement pas. Mm-hmm. Les perspectives, il est bien sûr difficile de savoir ce qui va se passer. Il y a 10 jours, là, le jugement sera rendu le 12 septembre. Il va probablement être condamné. Tout indique qu'il sera condamné. Est-ce qu'il sera condamné à de la prison ferme ou à de la prison domiciliaire ? Ça, c'est la dimension qu'on peut pas vraiment établir. Ça va dépendre des équilibres entre les juges et des pressions qui vont s'exercer sur eux. Mais on peut considérer qu'il va avoir du mal à maintenir un rôle dans la vie politique, bien qu'il ait des relais, en particulier ses fils, hein, qui sont des figures qui continuent de porter la voix du clan Bolsonaro sur la scène publique et à l'intérieur de l'extrême droite brésilienne.
Une dernière question à Mochirio, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Le président Lula, le président actuel, lui, comment il se positionne face à ce procès ? Est-ce qu'il en parle déjà ?
Alors, il en parle pour indiquer qu'il n'en parlera pas. La thématique autour de ce procès, c'est le procès de la maturité de la démocratie brésilienne, la fin de l'amnistie, la fin de l'impunité, qui est en fait un discours que tient l'exécutif depuis janvier 2023, c'est-à-dire depuis l'invasion de la place des trois pouvoirs, qui a changé complètement le discours de Lula et de son gouvernement, qui avait commencé sur l'idée d'une réconciliation nationale et qui a adopté un discours de transition démocratique avec la maturité institutionnelle. Et cette maturité, elle va avec la séparation des pouvoirs et avec l'idée que l'exécutif ne doit pas faire pression sur le judiciaire et que la justice doit suivre son cours sans intervention de l'exécutif. Néanmoins, le fait que les pressions s'exercent sur le gouvernement, les pressions extérieures s'exercent sur le gouvernement, la Maison-Blanche a menacé Lula. Bien sûr, elle a également menacé et privé de visa les juges de la Cour suprême, mais a également demandé au gouvernement brésilien d'empêcher les poursuites. Et donc la réaction du gouvernement brésilien, c'est de dire dans une démocratie qui fonctionne, ce n'est pas à l'exécutif d'empêcher à la Cour suprême de mener un jugement jusqu'à son
terme. Merci beaucoup pour vos explications, Mochirio, historienne spécialiste du Brésil contemporain.